Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Bonjour David, je suis très contente de te compter parmi mes collaborateurs cette saison. David, je tiens à te présenter, tu es titulaire de maîtrise en philosophie et en enseignement et tu es enseignant et c'est particulièrement pertinent pour le sujet d'aujourd'hui.
Donc oui, bonjour Yasmine, moi aussi je suis content de passer l'été avec toi. Ben oui, évidemment, en fait tous les sujets en lien avec l'éducation, ça fait toujours réagir. Hein? Ça, on s'en rend compte très, très rapidement juste sur les réseaux sociaux. Tout le monde a son petit grain de sel à dire. Tout le monde a déjà été à l'école, est parent, donc on a une petite idée de comment ça se passe. Donc oui, ça en prend pas beaucoup pour qu'on réagisse. Là.
Alors, je sais pas si tu as vu le dossier spécial qu'il y a eu dans l'éducation cette fin de semaine, là, mais il y a des retards chez nos élèves. Tantôt, c'est la faute des élèves qui sont démotivés. Tantôt, c'est la faute des professeurs qui en arrachent. Toi, tu es enseignant. Tu vois les élèves. Comment tu lis la situation?
Ben, je pense que c'est ça. C'est la première année dite normale, entre guillemets, là, depuis quand même deux ans, depuis 2020. Et puis oui, les élèves, on voit une baisse dans les performances, dans la motivation. Ça, j'en suis certain. Et là, comme tu dis très bien, tout le monde se lance la balle un peu, là, donc c'est de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre. Je pense que évidemment que les enseignants ont une part de responsabilité, sont pas parfaits. Moi-même, je pourrais m'améliorer, je pourrais avoir des meilleures stratégies, j'ai pas de problème à le reconnaître. Mais il y a quand même quelque chose de particulier de voir des jeunes de 14, 15 ans mettre la faute sur les enseignants, c'est-à-dire donc des personnes qui ont pas de formation en enseignement, qui sont encore aux études, puis qui se donnent le droit en quelque sorte de critiquer leurs enseignants. Il y a comme une attitude là-dedans qui m'agace, et je sais que ça a agacé plusieurs enseignants en fin de semaine.
Ben je comprends. Je sais pas, moi je suis peut-être pas très vieille, mais de mon temps, je peux pas croire que je commence déjà à dire ça à 32 ans de mon temps, mais de mon temps, pour moi, un professeur, c'était une autorité, quelqu'un qu'on respectait. On va pas devant le journal critiquer nos enseignants. Mais il faut croire que les temps ont changé?
Je pense que tu as raison. En effet, il y a comme une espèce de renversement de l'autorité, hein, un renversement un peu du rôle de l'école. C'est-à-dire que... Et ça a changé très, très rapidement d'ailleurs. Hein, tu dis dans mon temps comme si ça faisait très, très longtemps, mais c'est assez récent. Mais donc oui, il y avait sentiment que non, c'est à l'enfant de se plier aux règles de l'école, c'est à l'enfant de s'adapter. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que c'est l'école et les enseignants qui doivent s'adapter aux enfants, aux élèves. Évidemment, il y a toujours un jeu. Évidemment que l'école doit s'adapter en partie pour les élèves, mais j'ai toujours l'impression que le gros du travail d'adaptation devait se faire par les élèves et non par l'école. Et ça, c'est en train de se retourner, si on veut.
Mais David, est-ce que les élèves aussi, ils voient différentes personnes défiler dans leur classe? Il y a une réelle pénurie de main-d'œuvre, une réelle pénurie d'enseignants, et ils voient plus de remplaçants que des enseignants titulaires dans leur classe. Est-ce que ça fait en sorte d'éroder le lien qu'il y a entre cette autorité-là et les élèves? Parce qu'ils voient des personnes qu'ils pourraient ne pas revoir demain, et il n'y a pas ce lien-là qui s'établit avec le temps.
C'est une excellente réflexion. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le système d'éducation, est-ce qu'il y a un rôle à jouer dans cette dégradation de l'autorité? Et manifestement, je pense que oui, parce que quand tu vois des enseignants qui traversent la porte jour après jour puis qui sont différents, ben évidemment l'autorité va se dégrader, on va pas développer le lien avec ses élèves, donc évidemment que ça a un rôle à jouer, et c'est pour ça qu'il faut pas juste lancer la roche aux élèves. Le système doit prendre ses responsabilités, mais je reviens là-dessus quand même que des élèves se donnent le droit, ça m'agace un peu là, puis c'est parce qu'on a le sentiment les enseignants que le succès et la réussite de l'élève repose uniquement sur ses épaules. C'est comme si la responsabilité de l'élève existe de moins en moins et que c'est vraiment c'est l'enseignant. S'il y a réussite, c'est grâce à l'enseignant. S'il y a échec, c'est à cause de l'enseignant.
Mais on est toujours dans la recherche de l'enseignant qui va nous inspirer, qui va nous motiver, qui va nous donner envie de se dépasser. Et j'ai l'impression qu'avec la pénurie, avec le fait que les deux dernières années ont été difficiles, notamment pour les enseignants qui ont dû se réinventer et découvrir de nouvelles manières d'enseigner finalement, les élèves sont déçus de cet espoir qu'ils avaient d'avoir des enseignants qui allaient leur donner cette envie de se dépasser. Est-ce que les élèves et leurs parents, parce que par extension ça doit être alimenté quelque part à la maison, ce sentiment-là, est-ce qu'ils en demandent trop au système d'éducation?
Je pense que oui. Je pense que oui. Souvent, on en discute entre collègues et on se demande qu'est-ce qui ne fait plus partie de la mission de l'école. C'est-à-dire qu'on a l'impression que maintenant, et je dis pas que c'est pas important, mais tu sais maintenant, tout ce qui est santé mentale, ça fait partie de la mission de l'école. Éducation sexuelle, ça fait partie de la mission de l'école. L'hygiène, ça fait partie de l'école. Tout volet scolaire, évidemment, fait partie de la mission de l'école. La motivation, maintenant, donc on a l'impression que on en a de plus en plus à l'école et ça devient les programmes s'alourdissent en particulier aux enseignantes du primaire là, leurs programmes sont de plus en plus imposants et donc oui on voit pas le bout de ça, puis il y a quelque chose aussi de démotivant pour les enseignants, c'est-à-dire que quand tu vois que tu as tellement de travail à faire, oui, tu vois pas le bout, c'est démotivant, il y a pas de doute là-dessus.
Là je veux t'entendre sur une question. Il y a certains experts qui commencent à remettre en question la pertinence des examens du ministère. Moi j'ai de la misère avec ça, je sais pas si c'est parce que je suis puriste. Mais pour moi, c'est le seul moyen de pouvoir s'assurer que tout le monde a le même niveau avant de passer à l'étape supérieure. Est-ce qu'on est en train de niveler vers le bas dans notre éducation, David?
Il y a cette tendance là, je veux pas non plus trancher trop fortement, mais je pense qu'il y a une forme de cette tendance là. Le devoir en mai dernier révélait que il y avait une baisse de 10% des notes en lecture en quatrième année. Entre 2019 et 2021, 10% de lecture, c'est énorme. D'ailleurs, tu sais, tout ce qui est lecture, ben ça a des effets sur les autres matières. Hein. C'est-à-dire que si tu as des faiblesses en lecture, ben en histoire, tu vas avoir de la difficulté, même en sciences ou en mathématiques, où est-ce que tu dois lire un problème, tu vas avoir davantage de difficultés. Donc voilà. Et là, comme tu le dis, certains experts vont dire, ben regardez, enlevons les examens du ministère parce qu'en quelque sorte, ça nuit à la diplomation. Et
là, l'objectif, c'est la diplomation, pas l'apprentissage, puis assurer qu'il y a un certain niveau.
Ben La mission de l'école, c'est la réussite pour tous. Donc vraiment la diplomation pour tous. Écoutez, ça peut se défendre en théorie, mais faut être bien conscient que justement ça rajoute à la démotivation des enseignants, ça amène du cynisme parce qu'on se dit ben là peu importe ce que je fais, moi l'objectif c'est que la personne aille son diplôme au bout de la ligne, c'est pas qu'elle atteigne un certain seuil d'apprentissage de compétences.
OK, fait là, on va commencer à avoir des critères de diplomation finalement un peu plus personnalisés dépendamment de comment chacun est, puis il a fait des efforts, fait qu'il mérite son diplôme même s'il n'a pas toutes les compétences et les connaissances pour pouvoir passer à la prochaine étape. Moi ça m'inquiète beaucoup, d'autant plus que on a déjà vu que cette caravane du nivellement vers le bas a commencé, comme moi j'étais surprise de savoir qu'on pouvait engager des enseignants avec un simple secondaire 5. Ça doit être aussi démotivant pour des enseignants qui sont là depuis plusieurs années, puis de voir qu'on accepte aujourd'hui des enseignants qui viennent enseigner avec un secondaire 5.
Ah bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer l'enseignant, le finissant en enseignement, qui a étudié quand même, il a fait son cégep, il a fait son université, 4 ans d'université au minimum, et là, il arrive sur le marché du travail, puis il se rend compte que son collègue sur son 5 peut travailler de son côté. Donc, il y a quelque chose quand même de démotivant, de se dire, ben là, c'est quoi la valeur de mon diplôme? Parce que finalement, j'aurais pu enseigner sans ça. Donc oui, il y a une forme de nivellement par le bas, mais en même temps, à leur défense, je vais dire que, écoutez, les commissions scolaires, les écoles qui engagent des personnes avec un secondaire 5 pour enseigner, c'est pas par choix, là. C'est-à-dire qu'ils ont pas le choix. Donc, le problème vient est beaucoup plus important finalement que juste la commission scolaire qu'il faut pointer du doigt là, c'est-à-dire que on n'est pas capable de garder nos enseignants et on en demande de plus en plus en fait là, donc c'est ça en réalité.
Mais la question qui me revient, puis là je sais que les syndicats vont crier au meurtre là parce que je pose cette question là. Est-ce que ça revient pas au fait que des enseignants doivent avoir un ordre professionnel qui puisse attester de leurs compétences et de leur capacité à enseigner, puis assurer que tout enseignant qui rentre dans les classes, qui va enseigner à nos élèves, puisse démontrer ces compétences-là et que ce soit un ordre professionnel en bonne et due forme qui doit être créé, parce qu'aujourd'hui, les enseignants ne sont représentés que par leur syndicat et il n'y a aucun organe de style ordre professionnel qui réglemente la profession.
Non, t'as entièrement raison. Je pense que oui, l'ordre professionnel, les syndicats réagissent sans doute dans leur salon, dans leur auto en ce moment, entendre ça. Mais assurément que quand on enseigne, on a très très peu d'obligations en matière de compétences. C'est-à-dire qu'on se fait évaluer quand on est au baccalauréat, par exemple, en enseignement. Après ça, notre direction peut nous faire certaines évaluations, surtout en début de carrière, mais dans bien des écoles, après ça, ben écoutez, on les laisse faire, il n'y a plus vraiment de nouvelles évaluations. S'il y avait un autre professionnel, ben il y aurait certaines obligations, il y aurait certaines bonnes pratiques qui seraient mises de l'avant.
Moi, je me rappelle très bien à l'université.
La formation continue, ça existe déjà, mais ça reste, c'est assez flou. Le gouvernement demande, si je me trompe pas, entre 20 et 30 heures par année, quelque chose du genre, mais ça reste assez flou. Mais là, s'il y avait un ordre, vraiment, il y aurait des bonnes pratiques qui seraient proposées, parce que je me rappelle très bien, à l'université, à un moment donné, j'avais demandé à un enseignant, à un professeur, est-ce que il y a certaines bonnes pratiques qui sont obligatoires en quelque sorte, où il y a toujours moyen de justifier ces stratégies pédagogiques avec une théorie à la mode. Puis on m'avait dit que oui, en effet, il y a toujours moyen de justifier ces stratégies. Donc c'est vraiment une espèce de barre ouverte. Faites les stratégies que vous voulez, en autant que vous soyez capable de les justifier. Mais tu sais, quand on parle de données probantes, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont meilleures que d'autres? Ben ça, étant donné qu'il n'y a pas d'ordre, c'est plus compliqué à installer. Là.
David Santarossa, merci beaucoup. On se retrouve demain.
Certainement. Au revoir.